Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
T'as pas oublié ta brosse à dents?
Non.
T'as pris des fringues confortables?
Ils savent que je suis black.
Quel intérêt?
Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère.
Réunion de famille, escapade à la campagne.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la place des Noirs dans la société US à travers une étude comparative de 4 films. The Intruder de Roger Corman, réalisé en 1961 et sorti l'année suivante, qui est disponible en Blu-ray et DVD chez Carlotta. Ragtime, un film de 1981 de Milos Forman, donc édité par Arte. Et Get Out, qui est sorti chez Universal, un film de 2017 de Jordan Peele. Et Us, qui vient donc de sortir au cinéma, en tout cas qu'on a vu il n'y a pas longtemps quand on enregistre cette émission. Et pour causer politique et cinéma, je suis accompagné aujourd'hui d'un trio, d'un incroyable trio qui est, prêt à en découdre. On va débuter avec Damien Demey, qui est également appelé la bête noire de Compiègne. C'est un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui pourront entendre ces mots.
John Ferret, dit l'homme mystère, est également dans ce studio. C'est un libraire fou, mais ça vous le savez déjà. Qui vous invite à hanter l'indépendante librairie des signes compiénoise, librairiedessignes.com, donc, pour en savoir plus. Hi John.
Hi et bonjour à toutes et à tous.
Également présent à nos côtés, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige deux sanglants écrits avec ses petites griffes acérées pour la revue Griffe, ça tombe bien, et pour le site cultureaupoint.com. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, salut John, et évidemment, salut à toutes.
Ten Negroes went into the Caxton High School, sat with the white children.
Do you think it can be stopped?
I've come to do what I can for the town.
Hey nigger! Why don't you go on home?
They do grow things fast here, don't they? The way you act, you're not afraid of me, are you? You despise me, but you're attracted, isn't that right?
You!
The Negroes will literally, and I do mean literally, control the South!
I don't believe any part of it, do you?
The boy here and the other children have got to go to school this morning. It means everything.
You can't give up now.
On va débuter cette émission par un film que je trouve, moi, passionnant, et à revoir aujourd'hui encore plus passionnant, parce qu'il fait écho encore à notre époque. C'est un film vraiment très fort, c'est The Intruder, dans lequel un homme en complet blanc arrive dans une ville du sud des États-Unis. Alors cet homme, c'est le Captain Kirk, William Shatner, mais enfin là, il ne fait pas le Captain Kirk, évidemment. Au moment où viennent d'être votées les lois sur l'intégration permettant à des enfants noirs de fréquenter les mêmes écoles que les enfants blancs, c'est l'arrêt Brown Board of Education. Alors, il se présente comme un réformateur social, mais en réalité, la seule chose qu'il recherche est semer le trouble. Il y parvient, mais petit à petit, il va perdre le contrôle de la situation. Et alors là, on va assister à un film que je trouve tout bonnement incroyable. Alors, Corman, Roger Corman, plus connu pour être un producteur de série B qui a fait fortune, qui a révélé toute une génération de cinéastes comme Coppola, comme Jonathan Demme, voilà, avec le film James de prison Cameron. De femmes, 5 femmes à battre. Enfin, vas-y Thomas, continue la liste, je te laisse.
James Cameron, puis bah ça.
Joe Dante. Voilà. Eh bien, connu pour ça, puis connu aussi pour avoir réalisé une série d'adaptation d'Edgar Poe, hein, son fameux cycle Edgar Poe. Et puis il y a ce film qui tourne en 61, qui sort en 62, qui est un film un film qui répond à ses préoccupations politiques. C'est quelqu'un, il faut savoir que c'est lui qui a dans son bureau les affiches originales de mai 68 réalisées en France que tout le monde cherche. C'est lui qui les a, les originales. Il les a achetées, ces affiches. Elles sont dans son bureau. Et alors c'est très ambigu parce que c'est en même temps un ultra-capitaliste qui a fait son beurre. Mais enfin, c'est un Américain, hein, voilà. Il n'a pas la même grille de lecture que nous. Et il fait un film, parce en pleine période en plus, hein, parce que c'est vraiment le... On est encore là, quand il tourne, c'est compliqué. Hein, un film sur la ségrégation, où il prend le parti, évidemment, de défendre les Noirs, de défendre les opprimés. Et ce film, moi, m'a sidéré quand je l'ai revu, parce que, en dehors d'être une série B, très efficace, très bien réalisée, très bien troussée, et quand on lit l'autobiographie de Corman, parue chez Capricci, on voit comment ça a été compliqué à tourner parce qu'il a menti à la population sur le scénario pour avoir le droit de tourner dans un état, dans un endroit où les Noirs n'étaient pas forcément les bienvenus. Et puis petit à petit, les gens ont découvert la nature du scénario. Les flics ne voulaient plus le protéger. À un moment, les flics l'ont même menacé de presque aider la foule à le lyncher. Il devait changer d'endroit pour tourner. Ça a été très compliqué à tourner. Il y a des plans qu'ils ont tournés à deux parce que l'équipe technique ne voulait plus tourner. Ils avaient peur de se faire tabasser. Enfin bon, ce qui n'est pas étonnant. Et c'est le film en plus qui ne va pas marcher du tout. C'est-à-dire que le film va faire un flop. Alors évidemment, aujourd'hui, le film est devenu culte et considéré comme un de ses meilleurs. Et aujourd'hui, il s'est refait une deuxième santé financière. Mais à l'époque, le film fait un flop total. Il ne marche pas. Et le film est extraordinaire, dans un très beau noir et blanc en plus. Et moi, ce que j'adore dans ce film, c'est que c'est un film aussi sur le comportement des foules. Où on voit bien, quand on regarde la place du noir dans la société US, dans ce film-là, il est souvent au centre de la foule et il est souvent la victime potentielle du lynchage, hein. Jusqu'au bout d'ailleurs, où il y a une sorte de parodie, de pendaison, qui est évidemment... En plus, une erreur terrible. Donc, on accuse quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis, mais volontairement, tout est fomenté, c'est un complot. Et à partir de cette situation toute bête, et aussi d'un personnage blanc très intéressant, qui est un directeur de journal, qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément contre la ségrégation, mais qui se dit en fin de compte que bon, bah, puisque l'État l'a décidé, puisque c'est comme ça, puisque ce sont les lois, il faut y aller, puis il faut aider les Noirs à aller à l'école, il faut permettre tout ça. Et puis autour de lui, il y a toute la haine qui va s'amasser, et puis il y a ce prédicateur-là, qui est William Shatner, qui est excellent, qui va manipuler les foules jusqu'à temps qu'il ne puisse plus, tenir la foule, en fait, hein, parce qu'à la fin, ça peut finir très mal, hein. Même s'il y a une fin un peu abrupte pour terminer le film, enfin ça peut finir très mal. Alors je vous fais une version très courte, hein, mais moi le film m'a particulièrement scotché pour un truc, pour plein de raisons, mais pour un truc, c'est aujourd'hui on parle beaucoup d'internet, des fake news, tout ça, et on se rend compte qu'en fait les populistes, les racistes, les démagos utilisaient exactement les mêmes hommes, les mêmes armes, pardon. C'est aussi en Europe le sage des protocoles de Sion, le juif chus et tout ça. Enfin bon, ils utilisaient tout ça, toutes ces histoires complètement abracadabrantesques pour faire du noir le vilain, faire du noir le méchant, pour réécrire l'histoire à leur sauce. Et on voit bien là comment le personnage manipule les foules, à tel point d'ailleurs qu'à un moment les foules lui échappent parce qu'il y a même un homme noir qui est tué, alors qu'il n'en avait pas vraiment donné l'ordre, il voulait juste créer le chaos, hein. Et je trouve que moi c'est assez passionnant, et je pense sincèrement que c'est un film
qui devrait être montré dans les écoles. Je le dis sincèrement, pas pour faire mon vieux con, hein, mais je pense que c'est un truc qui devrait être au programme, quoi, voilà, histoire de voir ben déjà que, comment on pratiquait ce type de prédicateur qui a réellement existé. Hein, on en voit un dans le pas très réussi Black Klansman de Spike Lee. On voit un personnage qui ressemble aussi à celui-là et qui avait des appuis derrière, qui avait de l'argent. Il n'est pas tout seul, hein, il ne vient pas comme ça, hop. C'est un type qui est venu clairement semer le chaos. Et c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ben, la situation n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là par rapport aux démagos, par rapport même à l'élection de Trump, par rapport à cette Amérique du milieu, cette classe moyenne qui se sent délaissée et puis qui ne veut pas ouvrir ses portes à l'étranger, entre guillemets, évidemment. Moi, je trouve que c'est un film très, très fort, très, très intéressant là-dessus et qui est très effrayant parce que je pense que les gens ne mesurent pas, comme on est en Europe, nous, on ne mesure pas toujours, quand on vit en France, cette violence, ce racisme et cette violence communautariste et raciale qu'il y a aux États-Unis, qui est très très forte et qui est toujours très forte. On peut rappeler aussi, à titre d'exemple, ça peut paraître complètement anecdotique, mais un truc qui, nous, en France, ne va pas du tout nous parler, le fait qu'il existe un genre pornographique qui est interracial. Alors déjà, nous, il y a longtemps que pour nous, il y a une race, la race humaine. Enfin, c'est même plus dans les débats en France, voilà, ce genre de choses. Ça veut dire que c'est encore quelque chose qui choque aux États-Unis de voir des noirs et des blancs coucher ensemble. Donc, il existe carrément un sous-genre pornographique qui s'appelle comme ça. Je trouve que c'est assez révélateur des difficultés existantes aux États-Unis. Et ce film parle déjà de tout ça. On est en 61, il parle déjà de tout ça. Et moi, je trouve que c'est un film incroyable. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même un sacré film.
Culture Prohibée.
nous avions parlé, enfin j'avais parlé dans une émission précédente l'année dernière du roman qui a inspiré le film Un intrus de Charles Beaumont, un excellent roman, beaucoup plus touffu que le film. Le film se base exclusivement sur ce qui se passe dans cette petite ville de Caxton, je crois, hein, qu'elle s'appelle, la ville. Alors que dans le roman, il y a des flashbacks, il y a d'autres personnages qui enquêtent sur le personnage incarné par William Shatner à l'écran. Et on se rend compte qu'en fait, ce personnage-là, en fait, n'est pas raciste. Il avait des amis noirs, etc. Mais le discours du film, il est autre. Ce que dit le film est autre. C'est ce personnage de William Shatner, c'est un homme qui veut le pouvoir. Il veut le pouvoir absolument. Il veut pouvoir montrer qu'il peut manipuler les autres, qu'il peut avoir un ascendant sur les autres. C'est très clair à la fin. Dans les dernières minutes du film, c'est très clair. Mais c'était. Et pour ça, il n'hésite pas à user de discours qu'on qualifie aujourd'hui de populistes, c'est-à-dire à dire sur un ton très sûr des mensonges. Ce sont les juifs, les communistes. Bon, aujourd'hui, les communistes sont en perte de vitesse. Hein, ils ne sont plus dans la liste de ceux qu'il faut montrer du doigt. C'est les juifs, les musulmans, etc. Mais le film, comme le roman surtout, démontre très bien ce mécanisme du discours populiste et de comment on montre du doigt quelqu'un afin qu'il soit le bouc émissaire, ni plus ni moins. C'est la théorie du sacrifice de René Girard. C'est pour pouvoir asseoir son autorité, il faut pouvoir montrer quelqu'un qui c'est la faute du noir, c'est la faute du chômeur, c'est la faute de la prostituée. C'est Sarkozy en 2000, je sais plus. C'est Sarkozy, il en avait après les prostituées, il en avait après les chômeurs, etc. C'était à cause d'eux que la France allait mal, etc. Il faut un bouc émissaire, il faut quelqu'un contre qui la population va se rassembler dans un discours fédérateur pour détester une personne ou un groupe de personnes. Et le film décrit très bien ça.
C'est Trump avec les latinos aussi, hein, je veux dire, les murs du Mexique. C'est tous les populistes, en fait.
C'est tous les populistes, mais pas seulement les populistes, les hommes politiques en général. Il faut toujours qu'il y ait un truc rassembleur, mais il faut toujours qu'il y ait une victime expiatoire, quelque part.
Sans compter que populiste aux États-Unis, ça ne veut pas dire la même chose, ça n'a pas la connotation péjorative que nous, on lui donne en France. Je crois que Damien, il a quelque chose à nous dire sur The Intruder.
Oui, parce que tu m'y as fait penser en disant qu'il utilise le chaos pour accéder au pouvoir, ça m'a évoqué... Pour ceux qui connaissent, ceux qui aiment et ceux qui détestent Game of Thrones, où on a un personnage insidieux appelé Littlefinger qui a cette expression vraiment iconique qui est « The chaos is a ladder ». Le chaos est une échelle, on peut s'en servir pour arriver au sommet, pour avoir du pouvoir. Et c'est un personnage qui utilise justement toute cette mise en scène du chaos pour y arriver. Après, la grande différence que j'ai avec votre avis par rapport à The Intruder, c'est que je ne trouve pas que, par rapport au film, le noir soit vraiment au centre. Je pense que tout se concentre justement sur la manipulation du personnage principal. Et le noir, à ce moment-là, devient juste fantomatique, finalement, un peu à l'ensemble du film. Tout se concentre vraiment sur la culture de la haine, comment elle est engendrée, comment on peut faire participer les gens qui, finalement, n'étaient pas partis pour à continuer. C'est ce que vous disiez avec l'effet de foule qui, finalement, se crée. Cette idée de rassembler les gens autour d'un point commun, même si c'est le pire point commun qu'on puisse trouver.
Moi, je suis d'accord, c'est juste une toile de fond. Le thème du film, c'est la manipulation, c'est le populisme, c'est ce personnage. Et comme je le dis, dans le roman, le personnage n'est pas raciste. Il veut juste prouver qu'il est quelqu'un. Il veut prouver qu'il est quelqu'un qui peut manipuler des foules, qu'on peut le regarder avec admiration. Quoi. C'est ça qu'il veut.
Le tribun, quoi.
Voilà, le tribun.
C'est le tribun, en plus renforcé par la réalisation, il y a des zooms sur lui et tout. C'est clair, c'est lui le personnage principal. Mais c'est intéressant justement de voir comment le personnage noir est représenté dans ce film, alors qu'il est au centre de l'intrigue, puisqu'on parle de la ségrégation. Le personnage principal, c'est William Shatner, évidemment. C'est lui le personnage principal. D'ailleurs, c'est Charles Beaumont lui-même qui écrit le scénario du film, hein, qui joue dans le film aussi. Je fais le directeur d'école. Il fait beaucoup plus vieux que son âge parce qu'il avait une maladie grave et il est mort jeune. En fait, il n'était pas très vieux. Il aurait une quarantaine d'années dans le film, mais il est mort très jeune. Il en faisait déjà plus de 50 facilement.
En fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le film. Comme tu le disais, tu l'as beaucoup mieux formulé que moi, Thomas. C'est vraiment un film, effectivement, sur la manipulation et les tribuns et comment ils utilisent. Moi, je ne sais même pas s'il est raciste, William Shatner, dans le film, parce qu'il a la même manipulation sur la femme de celui qui habite la chambre d'hôtel à côté de lui. C'est-à-dire qui est une ancienne prostituée, d'ailleurs. Voilà. Il va la faire retomber dans sa condition juste en essayant d'avoir une relation sexuelle avec elle, alors qu'elle, elle a... Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est une figure qui est récurrente dans le cinéma américain. C'est je crois qu'on appelle ça le barrel philosophe, le philosophe de comptoir, qui est un peu personnifié, parce que c'est le personnage du Deus Ex Machina, par le compagnon de cette femme. C'est-à-dire qu'au début, on le prend pour un gros bourrin, ce représentant de commerce qui est avec cette femme. On se dit... Et en fin de compte, c'est peut-être l'un des personnages humainement les plus justes, les plus sincères, qui a une vraie bonté à l'intérieur de lui, en fin de compte, qui transparaît d'ailleurs lors du final, parce que c'est faut être clair, c'est cet homme blanc qui sauve le noir de la mort. Parce que là, ils sont en train de nous faire une reconstitution à la Ku Klux Klan quand ils le foutent à la balançoire. C'est vachement malaisant, ce final.
Oui, effectivement, c'est effectivement une ancienne prostituée. Et c'est lui qui en tombe amoureux et la sort de sa condition de prostituée. Dans le roman, c'est très bien expliqué. Et ce personnage-là est beaucoup plus, contrairement à ce que tu dis, oui, effectivement, il est beaucoup plus sensible qu'on peut le croire à sa première apparition. C'est vrai que c'est un homme qui ne va pas par quatre chemins. Et justement, c'est ça qui fait l'intérêt. Alors que l'autre, il louvoie, etc. Mais lui, c'est un homme qui va droit au but. Donc, cette opposition est intéressante dans le film aussi, dans le roman aussi d'ailleurs.
Le personnage est vraiment spectaculaire. Finalement, avec cette foule qui s'amasse et qui en veut à tout le monde, on se dit que le mal est dans tout le monde. Et le personnage qui débarque a priori comme un mauvais gars se retrouve finalement être un des héros de l'histoire, c'est somptueux.
Mais c'est aussi, je trouve, à notre époque, ça résonne énormément, ne serait-ce que en ce moment où on entend aussi que on retrouve encore des gens qui font des bruits de singes en voyant des noirs. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ces ignominies-là. Donc tout revient comme ça. Il y a ce refermement des peuples sur eux-mêmes. Les populistes gagnent du terrain et en plus, ils ont maintenant une écoute qu'ils n'avaient pas avant. Donc oui, j'imagine que ça doit faire bien écho.
Ladies and gentlemen, the getting ready rags.
Écoutez Culture Prohibée, spéciale place des Noirs dans la société US.
On va faire un petit bond dans le temps, Thomas, avec un film de Milos Forman qui s'appelle Ragtime, qui est un film de 1981, qui est une adaptation du roman éponyme de E.L. Doctorow, qui a été publié en 1975. Je vais te laisser un peu nous parler de ce film, parce que moi, ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est que Forman, il parle un peu de ce qui se passait dans son pays d'origine en parlant de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est ce que je trouve intéressant dans ce film. Tu vas nous en dire plus, Thomas.
Bah, par rapport à ça, je ne pensais pas à ça, moi. Donc, ce n'est pas un film de genre, comme on a l'habitude d'en parler à Culture Prohibée, mais il me semblait intéressant d'en parler par rapport à ton idée d'émission, GG, et aussi parce que le film vient de ressortir en salle et en même temps en Blu-ray. Et c'est un grand film de Milos Forman. Moi, ce que je vois surtout dans ce film, c'est que on peut dire que c'est un peu le pendant lumineux de Birth of a Nation de Griffiths. C'est-à-dire, je m'explique. Birth of a Nation de Griffiths, Donc Naissance d'une Nation, c'est un titre qu'on peut voir de façon très ironique quand on voit le contenu du film, je veux dire ironique d'une façon méta, hein. Quand on voit le contenu du film, bon, c'est un film qui participe à la naissance du cinéma parce qu'il a imposé une grammaire cinématographique, et c'est un film qui Naissance d'une Nation blanche, c'est-à-dire il met en avant les chevaliers du Ku Klux Klan comme des sauveurs de l'humanité face à des caricatures de noirs obsédés, sales, etc. quoi. Enfin, c'est un film vraiment sur le fond qui est ignoble. Et pour moi, Ragtime, il dit un peu la même chose. Et non, pas la même chose, mais il va un peu dans le sens contraire, dans le sens où le point de vue est inversé. C'est-à-dire que Ragtime parle de la naissance du cinéma. On est en 1906, le cinéma en est à ses balbutiements, et il y a ce personnage commence à faire des images mouvantes et commence à faire se lance dans le cinéma. Et il y a aussi cette façon que ce personnage du pianiste là, j'ai oublié le nom, qui accompagne
Cole House Walker Jr.
qui d'abord accompagne au piano des images d'actualité avant de jouer dans des cabarets. Et donc pour moi c'est le pendant un peu plus lumineux de Birth of a Nation, parce qu'il montre un aspect plutôt négatif de la façon dont les Noirs à l'époque sont traités au début du XXe siècle aux États-Unis. C'est-à-dire Cole House Walker Jr. est humilié par des pompiers volontaires qui dégradent sa voiture, et lui veut réparation. Évidemment, dans l'Amérique du début du XXe siècle, c'est pas forcément évident, quand on est noir, de trouver réparation même auprès de la justice par des hommes blancs, surtout des hommes blancs qui sont particulièrement beaufs là. Et donc il va s'entraîner dans une espèce de spirale où finalement il va entraîner la mort de sa copine, il va perdre son enfant qui lui sera dessaisi, et finalement il va perdre la vie. Et par rapport à son combat, on voit comment l'autorité qui est maintenue par une caste d'hommes blancs, l'autorité le traite, notamment à la fin, plutôt que arrêter. Bon, j'ai dit la fin, mais bon, c'est pas non plus un film à suspense. Hein. Plutôt que de le faire arrêter, le personnage du commissaire incarné par James Cagney le fait abattre plutôt que de le faire arrêter. Oui, sans forme de procès, il dit au flic qui a le fusil à lunettes, vas-y, tire. Voilà. Et pour moi, c'est ce film, c'est en ça que je voulais parler de ce film. Je trouve que le film, de ce côté-là, il est intéressant. Je trouve qu'il fait une sorte d'écho au film de Griffiths.
Alors, pour rebondir sur ce que je disais pour t'introduire, c'était qu'en fait, Miloš Forman, il a déclaré lui-même que le dilemme de Walker, donc ce personnage dont tu parlais, qui me fut même trop familier, dans la Tchécoslovaquie communiste, on se heurtait quotidiennement à des ignorants dotés de pouvoir qui ne se gênait pas pour vous humilier et devant qui il n'était pas question de se rebiffer puisqu'on avait tout à y perdre, y compris parfois la vie. C'est en ce sens-là aussi qu'il y avait un lien comme quoi les oppressions, même si certaines prônent l'égalité, peuvent se révéler tout aussi dangereuses pour l'être humain. Quoi.
Sink into the floor.
Wait.
Sink.
On va quitter un peu l'univers du cinéma d'auteur, là, et on va se diriger vers un autre auteur, hein, mais qui s'est fait connaître par une série B. Un des réalisateurs les plus intéressants en termes d'horreur et de fantastique de ces dernières années, puisque nous, les fans d'horreur et de fantastique, on est désespérés devant la qualité de la production depuis quelques années, quand même, en termes d'horreur et de fantastique. Donc, quand on voit des réalisateurs avec des univers aussi riches, des créateurs, des auteurs avec des univers aussi riches arriver comme ça, puis avec de la mise en scène, hein, parce que, on en a vu arriver un paquet qui faisait du found footage, moi je parle de mecs qui savent tenir une caméra, on est quand même grandement heureux, grandement ébahis.
Et en plus, il a l'air de vouloir se consacrer au fantastique, le garçon. Je veux bien sûr parler de Jordan Peele. Get Out, c'était sa première réalisation. Alors lui, il vient de la comédie. Hein. Il avait fait une... Je ne connaissais pas avant de voir le Get Out. J'avais vu le film Qui Nu, que j'avais trouvé assez insupportable, avec une histoire de chat et des rappeurs, enfin je ne sais pas quoi, qu'il avait scénarisé, dans lequel il jouait, qui ressemblait à une sorte de succession de sketchs sans réel lien vraiment intéressant... des fois limite débilos, bon ça peut pas me gêner moi quand c'est débile, hein. Ça peut même bien me faire marrer, mais là ça me, voilà, je trouvais ça par moments un peu consternant. Il y a la série Kay et Peele que je connais pas du tout, dont je connais juste un sketch, un fameux sketch où il fait le président Obama, il est en voiture avec sa fille, il lui apprend à conduire et puis elle fait un excès de vitesse, alors il y a un flic blanc qui l'arrête et puis Quand la fenêtre s'ouvre, il fait « Oh là là, monsieur le président, excusez-moi, je suis désolé, vous pouvez continuer. » Il lui fait « Non, 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 ma fille est en train d'apprendre la vie, elle est en train de devenir une citoyenne. Je veux que vous me traitiez comme n'importe quel citoyen. » Et à ce moment, il le sort de la voiture, il le fout sur la bagnole, il sort la matraque et tout. Ça, c'est très, très drôle. Voilà. Et je connais que ce sketch-là qui m'a fait mourir de rire, évidemment, puis qui trouve un écho particulier quand même, vu ces dernières années, ce qui s'est passé aux États-Unis. Et puis j'ai découvert Get Out comme ça, parce que c'est un film qui faisait la hype, parce que je m'étais dit, après tout, allons le voir, hein, pourquoi pas, on va tenter le coup, on va voir si c'est bien, quoi. Hein. Et alors, l'idée, lui vient d'un spectacle de stand-up d'Eddie Murphy, qui racontait que lorsqu'il s'apprêtait à rencontrer les parents de sa petite amie Blanche, il avait certaines frayeurs. Voilà, bon, je ne vais pas m'étaler. Et donc, lui, il a décidé de reprendre cette idée-là, en s'inspirant également de Night of the Living Dead, La Nuit des Morts Vivants de Romero, film de 68 dont on a déjà longuement parlé, puisque malheureusement le regretté George Romero nous avait accordé une interview il y a quelques années, qu'on vous a rediffusé plusieurs fois quand même, donc on ne va pas vous la rediffuser aujourd'hui, voilà. Et en fin de compte, ce qui est assez rigolo, parce que Romero lui-même, parce qu'on aurait pu le mettre dedans, hein, dans la représentation du noir dans la société US et au cinéma, on aurait pu mettre La Nuit des Morts Vivants, mais Romero s'est toujours défendu, mais alors là, bec et ongles, alors que c'est un type quand même très politisé, qui s'est jamais caché de ses idées politiques, d'avoir voulu illustrer quelque chose par le fait d'avoir un personnage principal noir. Il disait juste, Duane Jones, c'était juste le meilleur acteur que j'avais sous la main, c'est tout. C'est pas parce qu'il est noir, au départ le film n'est pas du tout pensé comme ça, il n'est pas écrit, le script n'a pas été modifié parce qu'il est noir, la trajectoire du personnage était la même.
Il n'y a aucun voilà. discours, n'y voyez pas.
Voilà, enfin il ne dit pas qu'il n'y a aucun discours, mais c'est un discours écolo, tout ça, mais il n'y a pas de discours racial. Oui. Voilà. Alors que pourtant, quand on voit le final du film et tout, ça prend une tournure qui peut laisser quand même penser autre chose. Mais bon. Et donc lui, il s'inspire de ça, et on va se retrouver. Alors le film, je me rappelle, moi, il démarre d'une manière un peu étrange, un peu flippante, avec un type qui s'appelle André, qui est enlevé par un mec qui porte un masque. Voilà, c'est un peu étrange. Il est en panique, il a appelé sa petite copine au téléphone. Et puis tout à coup, on va se retrouver beaucoup plus tard, donc avec ce jeune photographe, Chris Washington, sa petite amie, Rose Armitage, qui est blanche, donc. Lui, il est noir, donc évidemment, voilà, puisque c'est le sujet principal du film. Et il y a un voyage qui est organisé, elle va rencontrer ses parents, donc le neurochirurgien Dean et la psychiatre Missy. Et alors, il va débarquer dans une famille. Alors, au début, ça va être un peu le monde de Mickey, ça va être un peu idéal. Et puis, petit à petit, ça va devenir très étrange. Alors déjà, il y a un personnel de maison qui est un peu étrange, voilà, qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs les doubles de Us, hein, dont on parlera après. Et puis,
non plus sans évoquer le bon temps des plantations du Sud. Hein. Ah, c'est ça qui le gêne surtout.
Ah bah, exactement, évidemment ça. Et puis, mais avec le petit côté vaudou de Jack Tourneur en plus. Hein, ouais. Voilà. En plus. Et puis, ça lui fait se poser des doutes évidemment. C'est ce fait d'avoir un personnel de maison noire, voilà, exploité de cette manière-là. Et puis. Surtout, ce qu'il va trouver, il va y avoir une histoire d'hypnose et tout. Enfin, il va vivre des événements étranges qui vont le faire sérieusement douter de ce qui se passe dans cette maison. Ben, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser un peu parler, parce que d'habitude, c'est toujours moi qui parle beaucoup. Donc, je vais vous laisser un peu développer sur ce film passionnant. Et je pense qu'on a plein de choses à se dire avant de parler de Us. Ou alors, on peut parler des deux en même temps. C'est vous qui voyez, les amis. Vous
écoutez Culture Prohibée.
Son film est vraiment intéressant parce qu'il cristallise son époque, un peu comme The Intruder a réussi à faire, c'est qu'il nous montre finalement le noir de notre actualité intégré dans la société avec un malaise latent, notamment quand le père de la famille, son beau-père présente les portraits de la famille et que sur l'une des scènes, il touche avec insistance son épaule en regardant dans les yeux en lui disant « Mais tu sais, si j'avais pu, moi j'aurais voté une troisième fois Obama. » Donc quand on regarde, on a petit rire, mais on est en mode c'est quand même bizarre ça. c'est quelque chose qui est intéressant, surtout que dans Get Out, le film veut que finalement les victimes de cette société soient les noirs, ce qui finalement se retournera face aux personnes. Et je sais pas si vous avez vu la fin alternative qui a été tournée, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors, je ne vous spoil pas la fin, mais il existe une fin alternative où tout se termine très mal et le héros se retrouve en prison. On a un dézoom sur la prison où il se trouve et dans cette prison, il n'y a que des noirs qui sont enfermés. Ce qui est une symbolique très puissante. C'est quelque chose que Jordan adore et qu'aujourd'hui, il répète encore en tant que nouveau narrateur de The Twilight Zone, donc de la quatrième zone, dont le remake est actuellement diffusé, où il a un épisode qui s'appelle Replay et qui raconte l'histoire d'une mère célibataire noire qui veut juste déposer son enfant noir dans l'université et qui, à chaque fois qu'ils tentent la route, se font arrêter par un policier blanc qui finit par les tuer. Mais on n'arrive pas à savoir pourquoi il fait ça.
Us, son film suivant, s'inspire d'un épisode de la quatrième dimension. Moi, je n'ai pas vu encore ce qu'il a fait. J'ai très hâte de voir ce qu'il a fait sur la quatrième dimension, déjà parce que j'aime le travail de Rod Serling. Et vu lui ce qu'il fait aujourd'hui, je suis très intéressé par voir ça. Mais il y a aussi quelque chose, moi, que je trouve très intéressant parce que c'est courageux de... c'est courageux. En tout cas, c'est gonflé de l'aborder comme sujet. C'est qu'il y a clairement un moment, pour lui, la famille Armitage, elle enlève des Noirs pour en faire des esclaves sexuels. Voilà, c'est clairement quelque chose qui est posé, la question de la virilité du Noir, quelque chose qui se posait vraiment au cinéma auparavant, qu'on voyait plus dans des petits films, par exemple, comme Bone de Larry Cohen, qu'on aurait pu choisir, mais qui est totalement méconnu, ou des films plus connus, comme Mandingo de Richard Fleischer, enfin, qui est plus connu, qui a été réévalué avec le temps, qu'on voit aussi dans le Django de Unchained de Tarantino, cette attirance aussi pour le corps du Noir, et c'est très intéressant, je trouve, de développer aussi cette facette-là du scénario. Et puis, moi, je trouve pas que Get Out est un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est l'Oscar du scénario. Il est aussi politique, je pense. Je sais pas si c'est le meilleur scénario qui a été écrit cette année-là. Par contre, moi, j'aime beaucoup le film. Et en plus, en le revoyant, je le trouve meilleur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Au début, il y avait une sorte de hype, donc on le voit, puis bon, on est tous pareils, on se dit ouais, c'est bien, mais bon, voilà. Puis en fait, quand on le revoit, on se dit ah, c'est quand même bien. Et en plus, c'est bien réalisé. Et je trouve qu'en plus, il réalise de mieux en mieux. C'est-à-dire, sur le deuxième film, c'est encore mieux réalisé. Et ça m'intéresse vachement de voir en plus sa progression. Et ça dit effectivement beaucoup de choses sur la place des Noirs dans la société américaine. Parce que là, pour le coup, Get Out, il te montre que ces gens... ce qui est très intéressant, ce qu'on retrouve aussi dans Us, il te montre que tu l'as dit. Hein, moi, j'aurais voté une troisième fois pour Obama et tout. Mais pourquoi il lui dit ça? Il lui dit pas ça parce qu'il a de la sympathie pour les Noirs. Il lui dit ça parce que Obama, il a fait une politique en faveur des classes moyennes supérieures. D'ailleurs, ce qui a amené Trump au pouvoir aussi. Il y a un aspect communautariste dans le vote aux États-Unis, mais il y a aussi cet aspect-là financier qui est important, cette histoire de classe. Il parle aussi de lutte des classes, Jordan Peele, dans ses films. Enfin, moi, je trouve. Hein.
Complètement. Moi aussi, je trouve que, à la voyure Get Out, je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. Je trouve que c'est vachement bien écrit. Notamment, je trouve que le film est assez pervers. Parce que ces blancs, là, finalement, qui ont peur de vieillir, qui ont peur de mourir, et qui se croient supérieurs aux noirs, finalement, ils se réincarnent dans un corps de noir. Donc, quelque part, il y a un truc qui tourne en rond, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je trouve que S'il est moins bien écrit, par contre, je trouve qu'il est, il est moins bien écrit. Je trouve que la fin, il patauge un peu dans ses explications. Mais à la rigueur, on s'en fout. Par contre, je trouve que le niveau mise en scène, c'est un cran largement au-dessus. Alors moi, quand le film a commencé, la première séquence, j'étais complètement dedans. Pour moi, c'est du cinoche. La notion dont il gère les points de vue, les angles de caméra, c'est, je trouve ça vraiment vachement bien maîtrisé. Et la séquence dans la scène dans la fête foraine, tout ça, moi je trouve ça super. Et moi je le trouve beaucoup plus supérieur à Get Out, et je suis très impatient de voir ce qu'il va faire avec le troisième film. Je suis impatient de voir cette nouvelle quatrième dimension qui apparemment seront des remakes d'épisodes.
Ouais. Apparemment, ça ne déclenche pas un enthousiasme forcément extraordinaire. Les gens sont un peu déçus. Toi, tu l'as vu un peu, cette quatrième dimension
Oui, j'ai vu les trois premiers épisodes. J'ai hâte de voir la suite, mais c'est parce que la quatrième dimension, j'y ai pas eu accès quand j'étais plus jeune. Et le revoir aujourd'hui, je trouve ça très intéressant. Ça se sent quand même qu'on nous parle d'un truc qui a déjà été dit, mais il y a un petit effet qui s'en dégage.
Moi, je vais me précipiter là-dessus. Je vais peut-être rappeler un peu rapidement le pitch de Us, quand même, pour qu'on soit vraiment dans le truc. Le film débute en 86. Il y a la jeune Adélaïde Wilson qui part en vacances avec ses parents à Santa Cruz, à la plage du parc d'attractions Santa Cruz Beach Boardwalk. Elle s'éloigne de ses parents, qu'on devine aussi qu'ils ont des relations tendues, ses parents, hein, et elle pénètre dans le Palais du Rire, où elle rencontre donc son double, dans la Galerie des Glaces. C'est une scène assez tétanisante. Ce que je vous raconte là, je vous le raconte en 30 secondes, mais à voir au cinéma, c'est incroyable. On croirait venu le temps du grand John Carpenter, avec cette caméra, ces plans larges, là, cette caméra qui se promène, ce super plan, c'est extraordinaire. Donc après, le film a parfois un peu tendance du coup, ne maintient pas cette extraordinaire tension qu'il y a au début, mais enfin, il y a quand même pas mal de tension. Et puis ensuite, elle va retrouver ses parents, et elle sera incapable de parler de son expérience. Et puis adulte, elle se rend dans une maison de vacances à Santa Cruz, qui appartient donc à sa famille, avec son mari, Gabe Wilson, qui est une sorte de gros bourrin un peu
le vide. Le père est très bien écrit, je trouve.
Et puis leurs deux enfants, Zora et Jason. Et elle n'avait pas trop envie d'y aller, mais ils y vont quand même. Enfin bon, voilà. Arrivé là-bas, ils retrouvent un couple d'amis qui sont un couple de coquilles vides, quoi, hein, un couple de blancs, mais qui ont les mêmes idéaux qu'eux, hein, c'est-à-dire d'appartenir à la classe supérieure, où posséder et paraître est plus important que être. Et d'ailleurs, on le voit avec ce personnage du père aussi qui va acheter un bateau, on ne sait pas trop pourquoi, pour faire plaisir surtout à lui-même. Et puis tout à coup, la nuit, il y a une sorte de double de la famille, vêtu en rouge, qui apparaît dans leur cour. Et à partir de là, le film va partir en sucette, si j'ose dire ainsi. Va débuter un peu comme un home invasion, et puis ça va partir sur autre chose. Culture Prohibée, spéciale place des Noirs dans la société US.
on voit que Jordan Peele, il aime le genre. On voit qu'il aime le fantastique. Dans le premier plan de Us, il y a des références à Chud, les griffes de la nuit, etc. Donc, il aime tout ça. Il aime ça. Il aime la quatrième dimension. Il présente comme Rod Serling, etc. Et pour moi, Us, ça me fait beaucoup penser au John Carpenter de Prince des Ténèbres et d'Invasion Los Angeles. J'y vois un discours similaire. J'y vois aussi un discours sur le capitalisme, sur la façon de monter les échelons et à quel coût. Voilà, à quel coût on devient quelqu'un de respectable dans la société. Et à la fin, je ne vais pas dévoiler la fin, mais à la fin, il y a une scène clé où l'héroïne donc, se bat pour sa vie. Et je trouve que ce passage est extrêmement... inconfortable, parce que finalement, on est pour qui ? Quand on a compris le truc, on est pour qui ? Et je trouve ça très inconfortable. Je trouve que là-dessus, le scénario et le film, il est très malin, quoi. Et pour moi, malgré ses défauts d'écriture, je reste persuadé que c'est supérieur à Get Out, que je trouve, que j'aime pourtant beaucoup, qui lui-même, Get Out, je fais une petite parenthèse, me fait penser à un film d'un certain Ian Softley, s'appelle La Porte des Secrets. Avec John Hurt.
C'est moins bien.
Oui, c'est moins bien. Mais moi, j'aime bien ce film. Je trouve qu'il est très intéressant. Mais j'y vois une parenté. J'y vois quelque chose. Moi, j'aime bien La Porte des Secrets. Donc moi, Jordan Peele, effectivement, j'y vois plus un discours social et politique dans Us qu'un discours comme dans Get Out. Et je suis impatient de voir ce qu'il va faire pour son troisième film, s'il va transformer l'essai ou quoi.
Tu parlais des références. Après, Shud, c'est la référence évidente. Hein. C'est-à-dire, c'est le peuple des égouts qui remonte, pour ceux qui ont vu ce petit classique de la série B des années 80. Mais il y a plein de références, en fait, parce que c'est un film sur les déclassés, mais les déclassés des années 80. C'est-à-dire qui ont... Il y a le gant de Michael Jackson, qui est l'image même du parce qu'il y a aussi ce discours sur les Noirs qui se sont blanchis. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est dans le film. Et l'inverse aussi, d'ailleurs. Hein, on en discutait hors antenne. On a vraiment là ces victimes du libéralisme qui ont été tuées par Reagan, parce que cette histoire de farandole humaine, elle a existé réellement aux États-Unis. J'ai découvert ça moi après le film, je savais pas du tout que ça avait existé. Cette pub et tout ce qu'on voit dans le film, c'est vraiment, et la farandole humaine a eu lieu. Et en tout cas, elle a été annoncée. Et donc lui il reprend ça, c'est quelque chose qui a dû le marquer quand il était jeune. Et je trouve que c'est incroyable de reprendre ça, parce que les victimes du libéralisme tuées par Reagan, en fait, et ses successeurs, hein, là, ils sortent du sous-sol. Alors, on peut peut-être faire un parallèle avec les Trump qui a été porté au pouvoir. Hein. Ils sortent du sous-sol pour reprendre leur possession, quoi, pour revenir sur Terre, voilà, pour être là parmi eux. Et ce qui est très étonnant aussi, parce qu'il y a... c'est vrai que le film est... Les 20 dernières minutes, pour moi... il y a un problème d'écriture, parce que le film va être trop explicatif, je trouve. Après, il y en a que ça gêne pas. Moi, c'est le seul truc qui me gêne dans le film, c'est le côté explicatif de la fin, parce qu'on avait compris. Voilà, c'est redondant, il explique deux fois de suite et tout. Ça donne des belles scènes en termes de mise en scène. C'est chouette, hein, la bagarre, la scène de la salle de classe, la progression dans le couloir. J'aime beaucoup, parce qu'il y a un vrai réalisateur derrière la caméra, ça se sent, quoi. Il y a des vraies ambitions. Mais je trouve que voilà, ils en font un peu trop. Et puis, il y a aussi une scène qui est extraordinaire. C'est cette scène où ils vont chez donc leurs amis. Ils ont des relations assez superficielles, en fait, avec ses amis, d'ailleurs. Hein. C'est pas des relations très intéressantes. Ouais, c'est très étrange. Enfin, bon, bref. Et quand il débarque chez ses amis, quand il y a l'agression, quoi, la scène d'agression avec les doubles chez les amis, qui est super bien mise en scène. Et quand il y a la famille, Wilson qui débarque et qui se met à se battre contre les doubles, c'est excellent en termes de mise en scène, au niveau de l'occupation de l'espace, au niveau des déplacements de caméra et tout. C'est hyper prenant, c'est plein de suspense. Et puis il y a une révélation. Moi, je trouve que la petite gamine, elle est géniale, quoi. Elle a une vraie présence, elle est féline, elle est vraiment impressionnante. Moi, ça m'a vraiment bluffé, quoi. Il y a à la fois le discours politique, le discours de classe, le discours racial. Il y a une synthèse aussi du cinéma des années 80, y compris stylistique, hein, tu le disais, avec le Carpenter de la grande époque, la paranoïa, tout ça, parce qu'il y a aussi un aspect comme ça dans ce cinéma très présent. Hein. Moi, je trouve quand même que c'est un film hyper, hyper ambitieux, quoi.
Oui.
et aussi il y a de l'humour. Et c'est pas de l'humour lourdingue comme on peut le voir dans des productions récentes, mais c'est un humour quand même assez subtil qui désamorce certaines scènes. Moi, il y a une scène qui me fait mourir de rire, c'est quand on voit la mère en train de massacrer je sais pas qui, puis il y a son gamin qui arrive, et puis il voit ce qu'elle est en train de faire. Et là, il y a un échange de regards, la façon dont c'est filmé, c'est drôle. Je trouve ça drôle. Mais par contre, il y a quand même quelques petites incohérences. Mais bon, quand on est dans le film, on s'en fout.
Je sais pas toi, John, tu parlais du père tout à l'heure. Le père est un personnage étrangement assez absent. On comprend pourquoi, quand on a la révélation finale, en fin de compte, pourquoi il est très effacé. C'est un personnage... étrange, je trouve.
Il est formidablement bien traité, moi, je trouve. Et c'est pas le patriarche dont on peut s'attendre à ce qu'il soit comme ça. Enfin, il est entouré par toute sa famille. Mais pour revenir à Jordan Peele, j'ai préféré quand même Get Out à Us, parce que Get Out, on est vraiment en plein dans l'esclavagisme moderne qui dit pas son nom. On est en plein dans ce truc-là de se dire il y a des gens qui vont servir. Et puis, ce côté un peu banalisant de la chose, ferait beaucoup plus. Le monstre, c'est l'autre, le monstre. C'est ceux dont on croit que la vie est belle ou quoi que ce soit. Et je trouve qu'il le rend bien dans Get Out. Et je trouve ça beaucoup plus flippant. Us, j'aime bien aussi, mais un peu moins quand même que Get Out. Parce que Us, il y a la première scène, on en a déjà parlé, qui est assez formidable. Mais après, le discours d'en bas, d'en haut, quoi que ce soit, bon, c'est vrai que j'ai pas trop... adhérer à moi à ce discours-là. Pourtant, fan de la quatrième dimension que je suis, ça aurait peut-être dû me parler. Mais si tu veux, j'ai pas spécialement adhéré. Donc, par contre, je vais me réserver un second visionnage, ça c'est sûr, pour revoir la chose. Pas plus que ça.
J'y ai pensé d'un coup, mais niveau dichotomie qu'on a dans Us, c'est-à-dire Us, nous... qui peut être exprimé par nous, la bourgeoisie, si on est par ceux d'en dessous, ou nous, l'autre classe comme ça, qui est en dessous. Jordan Peele a fait aussi un autre truc entre le Twilight Zone et Us, qui est passé de manière discrète, c'est qu'il a réalisé pour YouTube Premium une série qui s'appelle Weird City, qui est une anthologie de plusieurs événements qui se passent dans une ville, qui est séparée par un mur où on a une classe qui vit dans des immeubles, des espaces verts, tout ça, une autre classe qui vit dans la banlieue. Et c'est assez intéressant parce que ces classes qui vivent dans les immeubles et les espaces verts pensent que de l'autre côté, c'est des gens incivilisés qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc je pense que Jordan, au niveau d'échotomie entre classes sociales, c'est vraiment son truc.
Et il y a aussi autre chose que... Je suis étonné que ça t'ait pas frappé, parce que par exemple, on pourrait penser à Invasion of the Body Snatcher de Don Siegel, avec cette histoire de double. Mais ces doubles, en fait, on peut aussi penser à Je suis une légende de Matheson, puisque ces doubles sont plus forts, en fait, c'est un peu l'échelon supérieur, quoi, si on est darwinien. Ils sont plus forts que ceux qui sont au-dessus. Ils sont plus forts physiquement, ils sont plus résistants. Voilà.
Oui, ils sont plus forts parce qu'ils ont un mode de vie qui est beaucoup plus dur. Les autres, ils se sont amollis, leur côté bourgeois, leur mode de vie, etc. Et ça rejoint ce que tu dis aussi. C'est quand on gratte derrière la vie des gens qui paraît magnifique, quelque part, finalement, on tombe sur des choses qu'on n'a pas envie de voir aussi. Comme dans Get Out, c'est la même chose. Hein.
Non, c'est sûr, mais je sais pas, moi, je sais qu'il faut que je le revoie, mais ça m'avait un peu, en plus, surtout avec la fin, mais par contre, force est de reconnaître que le mec propose vraiment autre chose. Il est pas comme certains qui sont actuellement à la mode des poseurs, où les mecs prennent le genre un peu par-dessus la jambe. On sent le mec respectueux du genre, on sent, comme on a dit, un vrai réalisateur. Moi, je veux voir le troisième, c'est surtout ça. Get Out m'a bien marqué, Us un peu moins, le troisième sera décisif pour moi, en tout cas.
Ah, moi c'est ce qui vraiment la première séquence dans la fête foraine, je me suis dit, oh putain, ça c'est de la mise en scène.
Ah, oui.
Ça c'est du cinoche, et c'est moi je trouve que c'est rare de nos jours.
Oui.
Mais moi je trouve que l'actrice, Lupita Nyong'o, elle est superbe. Quoi.
Ah oui, elle est excellente, parce que le double rôle n'est pas facile à jouer.
Le double rôle n'est pas facile. Elle remplit l'écran. C'est une belle femme. Moi, Us, malgré ses défauts d'écriture, vraiment, pour moi, c'est l'une des révélations de l'année.
Alors moi, j'étais très enthousiaste quand je suis sorti du cinéma. Je me rappelle avoir envoyé un petit texto à mon acolyte Thomas. Il ne l'avait pas encore vu à ce moment-là. J'étais vraiment enthousiaste à la sortie du film, malgré le final, les petits défauts d'écriture. C'est effectivement, moi, je trouve que ce que je n'ai pas compris, en fait,
Mais je pense qu'on aime bien faire ça, c'est un phénomène typique de la critique. Hein. Mais c'est pourquoi... Alors Get Out, tout le monde a trouvé ça génial. Et puis Us, bah voilà, il a un peu pris le melon, il a... Oh, je l'ai lu, hein, moi je l'ai lu, dans pas mal. Il a un peu pris le melon, il s'est égaré, son film est loupé, le premier était bien mieux, tout ça. Alors que, sans déconner... c'est vachement plus ambitieux. Il y a aussi tout ce délire avec les lapins là en cage et tout, vachement intéressant.
Le générique est vachement bien.
Excellent, mais tu es scotché quand tu vois ça.
Vachement bien.
Bien sûr. Et puis tu les revois plus tard les lapins, tu comprends pourquoi. Parce qu'en plus tout a un sens. C'est pas juste pour faire de la belle image. Si j'avais envie de faire de la provocation, on n'est pas en train de regarder Yorgos Lanthimos. Quoi. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a des choses à dire, quoi, qui n'est pas là que pour faire de la belle image un peu abstraite. Voilà.
Il y a quand même Get Out qui s'est quand même pris une volée de bois vert, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit « Ouais, mais non, c'est les femmes de Stepford, gna 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 gna. » Bon, moi, je trouve pas, je vois pas bien le rapport, mais moi, je vois surtout un autre... une autre facette de La Porte des Secrets de Ian Softley, que moi je trouve être un film pas génial mais intéressant.
Intéressant, oui. Et
autant Get Out, si tu veux, pose vraiment bien la condition des personnes noires dans notre société. Autant Us, je vois ça plus comme une critique sociale, comme l'ascenseur social peut-être qui ne monte pas assez pour tout le monde. Mais la question noire est beaucoup moins présente. Alors que Get Out, la question noire est vraiment bien présente, quoi, pour le coup. C'est-à-dire tous les travers de notre société et notre rapport par rapport à ça est vraiment bien décrit. Sur Us, c'est encore autre chose.
Sur Get Out, il y a un vrai discours sur la question raciale. Et le discours de classe est beaucoup plus prégnant dans Us, effectivement. Mais aussi, Get Out arrive à un moment, il y a aussi un discours sur aussi la notion des bavures policières. Tout ça, c'est aussi présent, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé dans l'émission, mais c'est quelque chose qui est présent aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas y penser en voyant le début et la fin du film. Enfin, c'est évident. Hein, voilà. Et je pense que Get Out aussi a été fait dans des contingences commerciales différentes. Parce que c'est Jason Blum, parce qu'à l'époque, le film n'avait pas fait un carton, il sortait un peu, enfin, Jordan Peele ne sortait pas de nulle part, mais enfin, il n'avait jamais fait de long métrage pour le cinéma.
Oui, il avait tout approuvé, quoi.
Il avait tout approuvé, voilà, puis les films Jason Blum, bon, bah, 9 sur 10 sont quand même très nuls, hein. Donc, pour ne pas dire pire. Et là, sur Us, il a pu développer quelque chose de plus intéressant. C'est un film... il y a un développement historique plus conséquent. En plus, il se passe sur plus longtemps. Il démarre en 86, le film. Donc, c'est très, très intéressant. Moi, je pense que le film est plus riche que ce que certains ont voulu y voir ou y plaquer. Et je pense qu'on n'a pas fini de découvrir Jordan Peele et qu'il va continuer à nous surprendre. Kind of broke the seam in y'all, so all I got is fire. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the STIDES. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me, ain't my homie. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire, de Compiègne, John Ferré, dit L'Homme Mystère, et Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. I'm so keyed up till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow so the ashes won't be burning.
mention. Then I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheek. What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tangeray straight had me. Stop at the light, man. My yesterday thing got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9-0 so we can roll big hot sheets.